Radio 1, la première FM de Tahiti. Tout de suite, l'info locale avec les titres présentés par Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Benny, bonjour à tous. On reparle de l'affaire JPK. La justice a refusé ce matin d'annuler les mises en examen de Miri Tatarata et de Francis Stein dans l'enquête sur la disparition du journaliste. Le palmarès de Tech for Island a été dévoilé ce matin. Le Grand Prix va à l'entreprise néerlandaise Desolenator pour sa solution de dessalement solaire thermique. Des Polynésiens ont aussi été récompensés. Et on parlera aussi du programme PILP qui propose d'emmener des leaders de demain en formation à Hawaï et à Taïwan.
Toujours pas de nouvelles du rameur porté disparu.
Et oui, vous le savez, un homme de 34 ans avait été aperçu hier en début d'après-midi aux abords de la passe de Papété. D'après des témoins, le rameur de Fa était tombé de son Vahoe, retrouvé vide avec sa casquette et sa rame. D'importants moyens nautiques et aériens avaient alors été déployés dans l'après-midi pour le retrouver, mais sans succès. Les recherches ont repris ce matin. La brigade nautique a de nouveau quadrillé le lagon et plusieurs embarcations de proches sont venues prêter main forte. Interrogé par nos confrères de Polynésie la première, la famille dit vouloir retrouver le corps du disparu dans la journée.
Et puis on reparle de l'affaire JPK au tribunal.
Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, deux personnes avaient été mises en examen pour meurtre dans le cadre de l'enquête autour de Jean-Pascal Courreau, disparu en 1997. Il s'agissait de Miri Tatarata, l'ex-compagne du journaliste, et de Francis Stein. Contestant fermement les soupçons des enquêteurs, ils avaient demandé tous les deux l'annulation de cette mise en examen, ce qu'a refusé la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papété ce matin. Comme le rappelle Tahiti Info, trois anciens membres du groupement d'intervention de Polynésie, le GIP de Gaston Flosse, sont toujours eux aussi mis en examen pour enlèvement et séquestration dans un volet plus politique du dossier. Toujours au tribunal, le deuxième volet de l'affaire Saranoui, 25 personnes sur le banc des accusés, 40 kilos de méthamphétamine qui seraient arrivés du Mexique via les États-Unis. On parle du plus important réseau d'importation d'ICE démantelé à ce jour. Lors de la première journée du procès hier, les deux principaux accusés, Tamatoa Alfonsi et Meitai Danielson, sont restés sur leur position. Franky Tumahai, 52 ans, dont près de 20 ans passés derrière les barreaux, a lui aussi été entendu. Il se dit repenti et prêt à collaborer avec la justice.
Et le palmarès de Tech for Island dévoilé ce matin.
Quelle solution technologique pour les îles d'après? C'est la question posée par Tech for Island, concours lancé en parallèle du Digital Festival. Pour cette deuxième édition, pas moins de 186 candidats de 37 pays et territoires avaient proposé leur projet. 4 lauréats ont été choisis la nuit dernière. Au menu de ce palmarès, un système de désalinisation à énergie solaire, la conversion de déchets en énergie, la lutte contre les moustiques, vecteurs de la dengue, et même une infirmerie mobile transportable d'île en île, un projet conçu en Polynésie, pas fait Fenua Medex et Aeraro. On écoute Olivier Cressman, président de la French Tech Polynésie.
Pour le prix Monde, c'est la société hollandaise Desolenator. Pour le prix Océanie, nous n'avons pas pu départager, et c'est pas plus mal, les acteurs polynésiens qui étaient Medican avec son conteneur aménagé, et également AEDS TEM, qui est une société de Nouvelle-Calédonie. Et puis pour le prix Outre-mer, c'est la société Numesemo Technologies qui a été retenue, qui elle est vraiment à la pointe de l'innovation, puisqu'elle utilise le soleil et un procédé compact et autonome pour produire de l'énergie, notamment au travers des déchets et la biomasse en hydrogène.
Les discussions du jury ont duré 3 heures hier soir. Il faut dire que se croisaient les avis d'entrepreneurs locaux, de spécialistes mondiaux de la tech ou d'élus comme le vice-président Terry Alpha. Chacun sa vision de la technologie.
Notre nouveau vice-président Terry Alpha, donc il connaît bien les problématiques qui viennent, puisqu'il a été notamment, et il est d'ailleurs ministre de la mer et de la recherche, donc il connaît les problématiques des îles. Et autant la lecture que pouvaient faire certains spécialistes mondiaux sur des solutions peut-être effectivement pour nous quelquefois un peu surdimensionnées, autant lui considérait que c'était pas si surdimensionné que ça, et que ça répondait quand même à des vraies problématiques indiennes qu'on connaît en Polynésie.
Voilà, et la prochaine étape aura lieu le 20 novembre à Paris, au ministère de l'Économie et des Finances, où les 4 lauréats recevront leur prix des mains du secrétaire d'État chargé de la transition numérique.
Changement de tête en pleine crise à l'IEOM.
Oui, le Sérum présentait hier un bilan économique de la Polynésie entre 2008 et 2018, ou comment le pays a traversé une des pires crises de son histoire. Une analyse riche en enseignements à l'heure où le Fénois connaît une nouvelle panne économique et tente de mettre sur pied une stratégie pour rebondir. Dans la salle, on croisait Fabrice Dufresne, qui s'apprête à prendre les rênes de l'IEOM en Polynésie en remplacement de Claude Perriou, qui part à la retraite jeudi. Une passation de pouvoir en pleine crise donc, mais le nouveau directeur veut se montrer optimiste.
Lorsque l'ISPF sortait une évaluation des pertes d'activité, une estimation du PIB 2020. J'avais en tête entre moins 15 et moins 20%. Et les évaluations vont être progressivement affinées. Et on s'oriente vers plutôt entre 8 et 12% de perte de PIB pour l'année 2020. Ce qui montre que l'économie polynésienne a une capacité de rebond aussi forte que celle qui est observée notamment dans l'Hexagone. Et au travers de cette présentation de bilan économique, c'est que même s'il y a eu des périodes de crise pour l'économie polynésienne, elle est en capacité enfin de pouvoir rebondir assez rapidement.
À 56 ans, Fabrice Dufresne, passé par Normal Sup et a une longue carrière dans les institutions financières derrière lui, il compte bien faire jouer l'IOM son rôle de banque centrale des collectivités françaises du Pacifique. La question cruciale, c'est bien sûr celle du financement de l'économie. Depuis le début de la crise, ce sont ainsi plus de 100 milliards de francs qui ont été mis à disposition des établissements bancaires de la zone, pointe-t-il, et d'autres opérations de refinancement sont envisagées.
Il faut relancer l'économie, notamment polynésienne, et donc l'IOM, avec le lancement très récemment d'une mise en place d'une ligne de refinancement à 36 mois, donc à taux zéro, à hauteur de 25 milliards. C'est un premier pas sur un refinancement beaucoup plus long pour pérenniser en fait la relance. Et dans un deuxième temps, il est prévu qu'une deuxième opération de ce type. Et si besoin il y a pour pérenniser cette relance, il y aura forcément évidemment l'appui et la contribution de l'IOM au financement de l'économie.
Des propos recueillis par Caroline Perdry.
Le Tahiti Fashion Week se met au numérique.
Et de New York à Milan en passant par Paris, la mode a bien dû s'adapter à la pandémie en cette saison des défilés. La Polynésie ne fait pas exception, pas de podium dans les jardins de l'Assemblée, pas de public et pas de concours de mannequins cette année. La 8e édition de la Tahiti Fashion Week aura bien lieu jusqu'au 17 octobre, mais de manière dématérialisée. Chaque jour à 18h seront mis en ligne des vidéos de présentation des créations polynésiennes sur Facebook, Instagram, YouTube et sur le site web de l'événement. On écoute le directeur artistique Alberto V qui est à l'origine de la week tahitienne.
Chaque vidéo, il y a plusieurs créateurs. On ne parle pas par malheur, mais je suis italien, donc superstitieux, il ne faut pas en parler avant. Je sais que des gens qu'on a montré, les gens, après, nous, on voulait faire un truc avec la destination et les vêtements. Tu verras. Les gens qu'ils ont vus et des pros, hein, pas n'importe qui. On ne travaille pas avec n'importe qui. Hein. Tout le monde est waouh, ça va être magnifique.
Les organisateurs promettent malgré tout une édition festive, car en dépit des troubles de ces derniers mois, les créateurs, quand on parle de vêtements ou de bijoux, ont bien créé, et certains ont même trouvé leur clientèle au beau milieu de la crise. La première des 12 vidéos de cette Tahiti Fashion Week un peu spéciale sera mise en ligne le 5 octobre.
Et le PILP relance ses sélections.
Et oui, PILP pour Pacific Island Leadership Program, un programme de formation né en 2013 et ouvert à tous les pays du Pacifique. L'idée, sélectionner des personnes qui jouent un rôle actif dans leur communauté et leur financer 10 semaines de formation entre Hawaï et Taïwan. On écoute Philippe Lemonnier, un ancien du PILP qui est devenu le représentant du programme à Tahiti.
Donc, il va y avoir beaucoup de travail de réflexion sur les tendances actuelles du monde dans lequel on vit, mais aussi beaucoup de travail personnel, de définition d'une vision et d'un plan d'action pour soi-même et pour sa communauté. Après, il y a la compréhension de l'environnement dans lequel on est, hein, le Pacifique, avec tous les enjeux géopolitiques qu'on peut voir, la Chine, les États-Unis, l'Europe, hein, tous ces grandes puissances en action dans la région. Qu'est-ce que ça veut dire et comment, en tant que membre de la région Pacifique, on peut agir pour prendre en main notre futur.
Le PILP n'avait pas pu recruter l'année dernière. Le prochain départ aura donc lieu en septembre 2021, après un long processus de sélection. Pas de profil particulier recherché, si ce n'est un engagement professionnel humain et associatif et l'envie de faire bouger certaines lignes.
Alors l'avantage de ce programme, c'est qu'il ne vise pas une catégorie de personnes. Donc on peut avoir autant des médecins que des journalistes, que des membres de gouvernement, que des entrepreneurs. Donc il n'y a pas de profil professionnel particulier. Par contre, on va rechercher des gens qui sont engagés tant professionnellement que associativement ou autre, avec une vision de donner pour leur communauté, pour leur pays, et pas des gens qui vont rechercher avant tout leur propre progression professionnelle ou leur propre intérêt. Enfin, donc c'est vraiment des gens qui sont engagés, qui ont démontré au travers d'actions associatives, bénévoles, culturelles, mais également dans leur métier, un potentiel.
Les sélectionnés auront l'occasion d'aller étudier la situation à Taïwan, pays qui a un lien historique avec les îles du Pacifique. Pas de mystère, Taipei finance le PILP et compte bien en profiter pour tisser un réseau de soutien dans la région. Du soft power avec aucune obligation à la sortie, assure les organisateurs. Une première réunion d'information sur le PILP aura lieu ce jeudi à 17h30. Tous les renseignements à retrouver cet après-midi sur le site de Radio 1.
Et encore des événements annulés à cause du Covid.
Annulés ou en tout cas reportés pour la Flying Pacific des Jeux. La compétition a été reportée en 2021. Cette première édition devait se dérouler à Tahiti au mois de novembre, avec une longue étape vers la presqu'île en passant par l'Est et une traversée aller-retour entre Tahiti et Moorea dans la même journée. Autre événement touché par l'épidémie, le concert de Major Lazer, qui a finalement été annulé après avoir été reporté déjà deux fois en raison de la hausse du nombre de cas de Covid en Polynésie. C'est le maire de Punaouia qui a pris cette décision. Le concert pourrait toutefois être reprogrammé en mars 2021. En revanche, le salon Made in Fénois, lui, est maintenu du 1er au 4 octobre et ça sera Place Toita. Voilà, c'est la fin de votre journal.